Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 7 avril 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Anne, au sommaire de cette édition.
Ban Ki-moon appelle les Centrafricains à éviter le drame d'il y a deux décennies au Rwanda. Ce lundi marque le 20e anniversaire du génocide.
Kigali continue d'accuser la France et la Belgique d'implication dans la préparation politique de ces massacres.
Le président Barack Obama envoie un message au peuple rwandais honorant la mémoire des centaines de milliers de victimes de ces massacres.
Le Mali a un nouveau premier ministre, Moussa Mara, le plus jeune de l'histoire du pays.
En Afghanistan, une bombe détruit un camion transportant des urnes, tuant 3 personnes au lendemain de la présidentielle de samedi.
Des manifestants pro-russes prennent d'assaut des bâtiments gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Moutou et les sports. Pour l'instant, le journal. En RCA, alors que le Rwanda commémore aujourd'hui le 20e anniversaire du génocide qui a frappé ce pays en 1994, Ban Ki-moon appelle les Centrafricains à éviter ce drame. Au cours de sa visite samedi à Bangui, le secrétaire général de l'ONU a rappelé aux leaders du pays leur responsabilité afin d'éviter cette même commémoration. Parlant de la réalité de la crise en Centrafrique, Ban Ki-moon s'est dit saisi d'épouvante et a appelé les Centrafricains à éviter le drame rwandais. Pour le secrétaire général de l'ONU, les erreurs du passé doivent servir de leçon aujourd'hui.
D'ici, je vais directement à Kigali pour commémorer le 20e anniversaire du génocide rwandais. C'est votre responsabilité à tous, en tant que leader, d'assurer que nous n'aurons jamais à commémorer un tel anniversaire en Centrafrique. Ne répétez pas les erreurs du passé. N'oubliez pas d'en tirer les leçons. Le sort de votre pays est entre vos mains. Les Centrafricains ne doivent pas s'entretuer.
Sur le terrain, les violences se poursuivent à l'intérieur du pays. Un accrochage entre les soldats de la force africaine et les anti-Balaka a été signalé samedi à Berberati, à l'ouest. On fait état d'1 milicien tué et de 4 blessés, dont 2 éléments de la MISCA. Nous reviendrons sur la Centrafrique dans la seconde partie de cette édition avec notre envoyé spécial Bagassi Koura qui s'est rendu hier au kilomètre 5 à Bangui.
Après l'annonce par le Quai d'Orsay que la France ne serait pas représentée à la commémoration du génocide rwandais à Kigali, le gouvernement de Paul Kagame a réitéré les remarques qui avaient provoqué cette réaction de Paris. La dernière salve est intervenue hier lors d'un forum dans la capitale rwandaise, chez Ruben Dorsil.
Lors de ce forum international, la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a dit que la France a causé du tort au Rwanda en étant partiellement responsable du génocide. Les relations entre la France et le Rwanda ne peuvent pas être réparées, a ajouté la ministre, si le Rwanda doit accepter la version française des événements. Madame Mushikiwabo faisait écho au propos du président rwandais Paul Kagame, qui a dit que la France et la Belgique ont joué ce qu'il a appelé un rôle direct dans la préparation politique du génocide il y a 20 ans. La France a nié toute responsabilité dans le génocide et affirme que les accusations vont à l'encontre du processus de réconciliation entre les deux pays. Ce lundi à Kigali, le président Kagame allumera la flamme de deuil national qui doit brûler pendant 100 jours, le temps qu'a duré le génocide. Plusieurs dignitaires internationaux, dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, sont attendus aux cérémonies. Le génocide a commencé en 1994, suite à la mort du président rwandais dans un crash d'avion. Kigali persiste et signe. La France a joué un rôle direct dans ce génocide qui a abouti à la mort de près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés aux mains de miliciens Hutus.
Ici à Washington, le président Barack Obama a envoyé un message au peuple rwandais, déclarant qu'il se joignait à lui pour commémorer le 20e anniversaire du début du génocide qui a coûté la vie à tant de personnes innocentes et ébranlé la conscience du monde. Nous honorons la mémoire de plus de 800 000 hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés de manière insensée, tout simplement à cause de qui ils sont ou ce en quoi ils croyaient.
Leur famille a poursuivi le président Obama, donc de... leur famille, a poursuivi le président Obama, n'ont que l'admiration des Américains pour avoir trouvé le courage de continuer. Ils éprouvent les mêmes sentiments pour les survivants qui ont eu à surmonter leurs blessures pour reconstruire leur vie. Nous saluons la détermination des Rwandais qui ont fait d'importants progrès pour cicatriser leurs plaies, relancer la croissance économique qui sort les peuples de la pauvreté et contribuer à des opérations de maintien de la paix dans le monde pour épargner aux autres la douleur qu'ils ont eux-mêmes connue.
En cette période de recueillement, nous nous rappelons aussi que le génocide au Rwanda n'a été ni un accident ni un événement inéluctable. C'est un effort systématique fait par des êtres humains pour détruire d'autres êtres humains. Les événements horribles de ces 100 jours, quand des amis se sont déchaînés sur des amis et des voisins sur des voisins, nous forcent à résister à nos pires instincts, tout comme le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres gens nous rappelle notre devoir vis-à-vis d'un autre être humain. L'anniversaire du génocide que nous commémorons aujourd'hui et le monde qui a manqué de réagir plus rapidement nous rappelle que nous avons toujours le choix.
Face à la haine, nous devons nous rappeler notre humanité commune face à la cruauté. A ajouté le chef de l'exécutif américain, nous devons choisir la compassion face à l'intolérance et à la souffrance. Nous ne devons jamais être indifférents. Embrasser cet esprit en tant que nation et individu constitue le meilleur moyen d'honorer la mémoire de tous ceux qui ont été tués il y a 2 décennies et de construire un avenir digne de leur sacrifice.
Au Mali, c'est le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville Moussa Mara, président du parti ILEMA, qui a été nommé par le président Ibrahim Boubacar Keïta au poste de Premier ministre à la place d'Oumar Tatamli. Âgé de 40 ans, Moussa Mara est le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Notre correspondant Kassim Traoré vous brosse son portrait.
Moussa Mara est un expert comptable et un homme politique malien, né le 2 mars 1975 à Bamako. Président du parti ILEMA, créé en juillet 2010, il fut candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 au Mali, où il a obtenu 1,5% des voix au premier tour. Lors des municipales de 2004, Moussa Mara a présenté une liste indépendante des jeunes aux élections communales en commune 4 du district de Bamako. Mais cette liste a été invalidée par le tribunal administratif car aucun candidat inscrit n'avait son nom sur la liste électorale. Lors de l'élection communale du 26 avril 2009, Moussa Mara présente une autre liste indépendante dans la commune 4 du district de Bamako. Il arrive en tête avec 14 conseillers sur 41. Mais grâce à une coalition de partis politiques, il devient le maire de la commune 4 du district de Bamako. Sa bonne gestion est appréciée par les populations, ce qui le pousse à redevenir maire dans la même circonscription électorale. Moussa Mara fut candidat à l'élection présidentielle de 2013 avant d'être nommé ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Et depuis le 5 avril 2014, le président Ibeka l'a mis à la tête du gouvernement, devenant ainsi le plus jeune premier ministre de l'histoire du Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, une bombe posée au bord de la route a détruit hier un camion transportant des urnes et tué 3 personnes 24 heures après l'élection présidentielle de samedi, à laquelle ont participé 7 millions d'Afghans pour élire le successeur d'Hamid Karzai. Les victimes de l'attentat, le chauffeur du camion, un policier et un membre de la commission électorale.
Quelques 7 millions d'Afghans ont donc bravé les menaces des talibans pour se rendre aux urnes samedi et élire un nouveau président. Mais le vrai niveau de succès du scrutin se mesurera à l'acceptation des résultats par les candidats, les précisions de Timothée Donangmaï.
C'était un des rares week-ends où les Afghans comme Ismail Qureshi ont éprouvé une grande joie. Selon lui, la présidentielle a été un grand succès. C'est un moment heureux pour les Afghans. Nous avons voté pour un nouveau leader, dit-il. 95% des gens sont heureux d'avoir pu voter dans le calme et c'est bon pour notre peuple. Le président Barack Obama a félicité le peuple afghan pour s'être rendu massivement aux urnes. Cette élection est cruciale pour l'avenir démocratique de l'Afghanistan et le soutien continu de la communauté internationale, a-t-il souligné. Pour Andrew Wilder de l'Institut de la paix des États-Unis, c'est un message décisif que les Afghans ont adressé aux insurgés. Si 7 millions d'Afghans sortent pour voter en dépit de toutes les menaces, je pense que cela ne peut s'interpréter que comme une réelle défaite pour les talibans. Les insurgés afghans ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Une bombe artisanale a détruit hier un camion transportant des bulletins de vote dans la province de Kunduz, tuant le chauffeur, un policier et un membre de la commission électorale.
Merci, Timothée de Langmaï. Des foules de manifestants pro-russes ont pris d'assaut dimanche les bâtiments du gouvernement dans les villes de Donetsk et Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, agitant des drapeaux russes et appelant un référendum sur l'indépendance. Jean-Roger Bion.
À Donetsk, un groupe imposant a forcé l'entrée du siège du gouvernement régional. Arrivé à l'intérieur, ces protestataires ont barricadé les portes et accroché un drapeau russe à une fenêtre. Des centaines de manifestants se pressaient sur la place en dessous, applaudissant quand ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment ont jeté un drapeau ukrainien par la fenêtre. Dans la ville voisine de Luhansk, des policiers anti-émeutes ont affronté des manifestants masqués qui tiraient des pétards dans l'air et essayaient d'enlever les boucliers métalliques des membres des forces de sécurité. La Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine le mois dernier après un référendum régional où une écrasante majorité d'électeurs s'est prononcée pour l'indépendance et le rattachement de la région à la Fédération russe. La mesure d'annexion du 21 mars, rejetée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, a donné lieu à une série de sanctions contre Moscou. Vendredi, le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a appelé les Européens à maintenir leur réponse ferme et unie face à l'intervention de la Russie en Ukraine.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. La crise en Centrafrique pour beaucoup d'habitants de Bangui, le quartier appelé Kilomètre 5 est un no man's land, une zone dangereuse où, dit-on, il ne faut pas s'aventurer si on n'est pas musulman. Mais ces derniers jours, une accalmie relative règne à Bangui et notre envoyé spécial Bagasukora en a profité pour faire un tour au Kilomètre 5.
En ce dimanche après-midi, le marché du kilomètre 5 semble bien animé. Sous une chaleur torride, les marchands et les clients discutent tranquillement. Depuis plusieurs mois, le kilomètre 5 a mauvaise réputation. Régulièrement, des affrontements ont lieu ici entre des anti-balaka venus attaquer et des résidents qui se défendent farouchement. Il est bien connu, surtout dans les milieux chrétiens, qu'il ne faut jamais s'aventurer au kilomètre 5.
Ça, c'est des tapages médiatiques.
Mirad Mahamadi, âgé de 45 ans, est un résident du kilomètre 5.
C'est des campagnes, on dit là, vous voyez, on est au niveau des marchés, il y a des chrétiens qui passent, il y a des musulmans. Et même ceux qui, les chrétiens qui habitent au kilomètre 5, avant ils sont là toujours, ils habitent toujours au kilomètre 5.
Mais on dit que c'est une zone barricadée, il y a toujours des tirs, on ne peut pas s'approcher.
Non, non, nous on est toujours en système défensif. Il n'y a même pas des armes ici. Bon, quand on nous attaque, on ne peut pas croiser le bras. Les gens, on cherche à les repousser parce que tous nos biens sont là. Et on est obligé de défendre nos biens. Mais depuis aujourd'hui, ça fait une semaine, on est là, il y a du calme, le calme règne. Il n'y a même pas de tir de fusil ni de quoi.
C'est dans ce marché du kilomètre 5 que Suzanne Wakilo vient chaque jour faire ses courses. Elle dit qu'elle est chrétienne et invite ses autres sœurs chrétiennes à se départir de leur peur.
Moi, je me promène dans le marché, j'achète tout ce que je veux. Il n'y a même pas quelque chose de gravité. Les gens sessionnent, les vendeuses, les commerçantes, ni et les commerçants. Tout, ça marche très bien. Il n'y a même pas quelque chose de gravité au kilomètre 5.
Si les quelques musulmans que nous avons rencontrés disent que le kilomètre 5 est un quartier bien fréquentable et ouvert à tous, ils avouent cependant que la réconciliation avec les anti-balaka n'est pas à l'ordre du jour. On écoute Mirad Mahamadi.
C'est encore précoce pour une réconciliation parce que pourquoi les balaka, on ne les connaît pas. Tout le monde est balaka. Donc il faut avoir un responsable que tout le monde peut fédérer derrière lui et nous, notre communauté, on est là pour la paix et on est prêt pour réconcilier. Mais cet anti-balaka et cet soi-disant chrétien, quelle est la personne qui est crédible et qui est représentative pour venir réconcilier avec nous? Et dès qu'il y a une réconciliation, tout le monde peut le suivre. Il n'y a aucun interlocuteur devant nous.
En attendant que la paix revienne, les habitants du kilomètre 5 profitent de l'accalmie relative de ces derniers jours pour vaquer à leurs occupations. Bangui, Bagasikoura, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le monde commémore aujourd'hui le 20e anniversaire du début du génocide qui, en 100 jours, a fait plus de 800 000 morts au Rwanda en 1994. Ce lundi à Kigali, le président Kagame allumera la flamme de deuil national qui doit brûler pendant 100 jours, le temps qu'a duré donc le génocide. Plusieurs dignitaires du monde sont réunis actuellement dans la capitale rwandaise. Ailleurs, à Brazzaville, les réfugiés rwandais se sont eux aussi souvenus du génocide qui les a jetés sur les chemins de l'exil voici 20 ans. Après tout ce temps, certains réfugiés installés au camp de Kintele, au nord de Brazzaville, estiment que le dialogue entre Hutu et Tutsi devrait être sincère pour rebâtir le Rwanda et permettre aux réfugiés de rentrer enfin chez eux. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Ngusu.
Le camp de Kintele, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, accueillait 4400 réfugiés rwandais en 1997. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 680. La plupart, redoutant le retour au pays, se sont intégrés dans les quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire. 20 ans après, Aloïse Bayingana, président des réfugiés rwandais au Congo-Brazzaville, redoute encore la haine ethnique qu'il a vécue au moment de sa fuite. Il appelle à un vrai dialogue entre Hutu et Tutsi.
Nous avons fui la guerre, mais ce n'est pas seulement la guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Mais le problème que nous avons fui, c'est la haine ethnique. Pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, il serait mieux d'abord qu'on fasse une réconciliation, c'est-à-dire un dialogue entre les races qui sont dans le pays, que ce soit les Hutus, que ce soit les Twa, que ce soit les Tutsi. Qu'on discute, qu'on se comprenne.
Hussein Sibamona a précipitamment quitté le Rwanda à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, père de 5 enfants, il raconte en Kinyarwanda ses difficultés de vie quotidienne à Kintele. À Brazzaville, on se débrouille pour assurer la survie. Nous n'avons pour assurer le pain à la maison. Nous voulons rentrer au Rwanda, mais les conditions là-bas ne nous rassurent pas. Pour Patrick Matabora, étudiant rwandais à Brazzaville, les jeunes à l'extérieur du Rwanda n'attendent que l'assainissement du climat de paix pour retourner rebâtir un nouveau Rwanda.
Et bien sûr, la jeunesse rwandaise est à l'extérieur. Ils ont toujours le volonté de rentrer chez eux, mais sous certaines conditions. S'il y a les conditions qui sont réunies, c'est possible que la jeunesse rwandaise puisse rentrer chez eux, nous attaquer les étudiants. Il faut créer dans le pays le climat, là où le monde va partir à l'aise. Il ne faut pas que le peuple vive dans une guerre.
Signalons que le Congo-Brazzaville avait accueilli 12 000 réfugiés rwandais fuyant les génocides. 20 ans après, il en reste encore 8 000. Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En RDC, les visites à la prison centrale de Bukavu sont monnayées. Quiconque veut rendre visite à un proche incarcéré dans cette institution doit se munir d'une certaine somme d'argent pour y accéder. Les défenseurs des droits de l'homme fustigent cette pratique qui tend à s'institutionnaliser et demandent aux autorités compétentes d'y mettre fin. De la capitale du Sud Kivu, notre correspondante Jolie Kamuntu.
À l'entrée de la prison centrale, il faut payer 300 francs congolais. 500 francs congolais autres sont exigés à tout visiteur qui n'a pas sa pièce d'identité ou carte d'électeur. 400 francs congolais, voire même 500 francs autres, sont demandés à tout celui qui possède un téléphone portable et qui doit laisser aux gardes commis à la prison centrale de Bukavu. En plus de toutes ces sommes, le visiteur qui apporte à manger à un prisonnier doit payer 1000 francs congolais qui doivent être remis au capitaine général de la prison avant que la nourriture soit remise aux prisonniers. Jean Moreau Toubibou du groupe Jérémy, une ONG des droits de l'homme qui visite souvent la prison centrale de Bukavu, dénonce cette situation avec la dernière énergie.
Nous réagissons très négativement. C'est une violation flagrante du respect même et des droits des détenus. Parmi les conditions minima, il y a une clause qui dit c'est de laisser le détenu recevoir des visites gratuitement. C'est un déficit que nous dénonçons. dénonçons avec force.
Solange Luachiga, secrétaire exécutif du caucus des femmes du Sud Kivu pour la paix, renchérit.
Ça, c'est illégal. C'est illégal le monnayage des visites. Donc, ce sont des cas réels. C'est la vérité. Et nous ne faisons que déplorer cela. Nous pensons qu'il y a un problème par rapport à la gestion de cette prison.
Ces deux défenseurs des droits de l'homme recommandent ce qui suit à l'autorité provinciale et à tous les acteurs qui interviennent dans la gestion de la prison centrale de Bukavu et autres lieux carcéraux du Sud Kivu.
Les gestionnaires de cette prison, le gouvernement provincial devrait s'atteler sur cette question et afin de créer un climat qui permette aux gens de visiter les prisonniers sans payer, il faut que ces réseaux soient démantelés et celui qui peut démanteler cela, ce ne sont que ces autorités compétentes en commençant par le numéro 1 de la province parce qu'il représente le président en province.
Nous demandons que la division de justice et garde des Sceaux puisse s'occuper très sérieusement des détenus. De note également du fait que l'État ne s'acquitte plus correctement de ses devoirs de nourrir les détenus. Ce sont les détenus maintenant qui nourrissent les agents de l'État qui sont mis à leur garde. Puisque nous ne devons pas toujours attendre que ce soit la division de la MONUSCO qui s'occupe des détenus qui passent par là.
Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Richard Canan, citoyen journaliste en Bujuma et au Café Oriental. 50 églises de réveil sont suspendues par les ministres provinciaux en charge de la justice parce que ces églises ne sont pas en règle avec l'État. Ces églises fonctionnent sans les documents légaux délivrés par le ministère de la Justice. Les ministres provinciaux de la Justice a pris un arrêté ce jeudi 3 avril afin de réglementer le fonctionnement des églises de réveil dans la province du Kasaï Oriental où la prolifération de ces sectes est constatée. Il faut vous signaler que dans la ville de Mbujima et précisément, presque sur chaque avenue, on doit dénombrer plus de 2 à 3 églises. Mais les enquêtes menées par les ministères a prouvé que ces églises fonctionnaient dans l'irrégularité et qu'ils ne respectaient pas les normes établies par les gouvernements provinciaux, notamment les tapages nocturnes et diurnes tels que prévus par un arrêté qui a précédé l'arrêté de fermeture.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Les sports maintenant avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Idrissa.
Football, le coup d'envoi des éliminatoires de la 13e CAN des moins de 20 ans a été donné ce week-end.
Oui, 20 pays sont sur la ligne de départ au premier tour. 13 équipes sont exemptées et 3 autres, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Togo, sont déjà qualifiés à la suite du retrait de leurs adversaires. Samedi donc, le Malawi et le Botswana se sont neutralisés 1-1. Le Swaziland l'a miné sur ses installations contre les Lesotho 0-3. Les Seychelles ont été dominés par l'Éthiopie 0-2. Djibouti a partagé les points avec le Burundi 1-1. La Sierra Leone a battu la Guinée 1-0. Le Niger est venu à bout du Congo 2-0. La Tunisie a écrasé la Mauritanie 3-0. Hier dimanche, le Kenya a été tenu en échec par la Tanzanie 0-0. Le Libéria a subi les Gambiens 0-1. Le Tchad est sorti vainqueur de son opposition avec la Libye 1-0. Les phases finales de la 13e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans auront lieu du 8 au 22 mars 2015 au Sénégal. Les 4 premiers du tournoi final seront qualifiés pour la Coupe du Monde qui se déroulera, elle, du 30 mai au 20 juin 2015 en Nouvelle-Zélande.
Marathon de Paris, victoire et record de l'épreuve pour l'Éthiopien Bekele.
Triple champion olympique, quintuple champion du monde sur 5000 et 10 000 mètres, Bekele vient de réussir avec brio son examen de passage sur la plus mythique des distances. L'Éthiopien Kerenissa Bekele a pris rendez-vous à avec le record du monde en remportant hier dimanche l'exigeant marathon de Paris avec à la clé le record de l'épreuve en 2 heures 5 minutes 4 secondes. Une énorme performance derrière Bekele et son compatriote Limeni Getachew et le Kenyan Luka Kanda complètent le podium à bonne distance. Chez les dames, la victoire est revenue à la Kenyane Flomena Sheyek avec un temps de 2 heures 22 minutes 44 secondes devant les deux Éthiopiennes Yebergal Melesse et Ahmed Zemzem.
Merci Jean-Roger. À présent, les résultats de la NBA. Miami 102, New York Knicks 91, Los Angeles Lakers 97, Los Angeles Clippers 120, Dallas 93, Sacramento 91, Atlanta 107, Indiana 88, Denver 125, Houston 130, Memphis 92, San Antonio 112, Utah 102, Golden State Warriors 130, Oklahoma 115, Phoenix 122, New Orleans 94, Portland 100. Merci à Jean-Roger. À présent, la musique de Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Alors, grâce au succès des derniers albums de Jay-Z, Kanye West, Beyoncé, il est devenu clair pour tout le monde qu'il était possible de vendre des palettes des disques en faisant le minimum syndical côté promo. Ce qui compte, ce sont les noms des collaborateurs et invités entassés dans un disque. Et cela fait bien longtemps que Rick Ross l'a compris. On l'écoute ici en featuring avec P. Diddy dans Magnificent. Remix.
I am the boss. Can you feel it? Nothing can save you. As we fly through the sky, so high. This is the remix. So magnificent.
Au lycée de Carroll City Senior High School, Rick Ross joue au football américain et obtient une bourse pour l'université d'État d'Albanie en Géorgie.
Oui, Idrissa. Et il commence à rapper au milieu des années 1990 quand il forme le groupe Carroll City Cartel. Idrissa, il a reçu les reproches du public et du milieu rap sur sa vie fantasmée, sur l'univers mafieux qu'il décrit dans ses disques sans ne jamais l'avoir fréquenté.
Rick Ross featuring P. Daddy, Magnificent. Merci Roger.
De rien Idrissa, et j'en profite pour faire un coucou à nos amis de Ouagadougou et plus particulièrement à Djibril Diallo. Bonne journée Idrissa.
Roger Muntu que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel.
So magnificent. Stop dreaming it. So magnificent. John Legend. Let's go. Rick Ross. The boss. Special Ed. Get it.
I'm the magnificent dynamite. Super dope. China White. Special Ed and Ricky Ross. The boss. See, we don't care what it costs. It costs. Put it on the tab. Put her in the cab. I'll be in the air. I'm a Twitter when I land. On South Beach, four wheeler in the sand. Money so long they don't really understand. Funny how a song make another million. Still got it made and I ain't even gotta floss it. I never lost it. I'm so fortunate. I don't force it. It just comes. Still getting cake while you birds get the crumbs. Top of the food chain. Dropping this new game. Hopping this new thing. That's how we do things. Yeah. So don't tell me. Show me. It's Special Ed and Ricky Ross. Let's go. Homies.
You know what it is. This is the remix. So magnificent. Stop dreaming it. Yeah.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Anne Albertson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Ban Ki-moon appelle les Centrafricains à éviter le drame d'il y a deux décennies au Rwanda. Ce lundi marque le 20e anniversaire du génocide. Kigali continue d'accuser la France et la Belgique d'implication dans la préparation politique de ces massacres. Le président Barack Obama envoie un message au peuple rwandais honorant la mémoire des centaines de milliers de victimes de ces massacres. Le Mali a un nouveau Premier ministre, Moussa Mara, le plus jeune de l'histoire du pays. En Afghanistan, une bombe a détruit un camion transportant des urnes, tuant trois personnes au lendemain de la présidentielle de samedi. Enfin, des manifestants pro-russes ont pris d'assaut des bâtiments gouvernementaux hier dans l'est de l'Ukraine.
Merci Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.